C'est l'histoire d'un homme qu'on avait oublié. Même la police, qui pourtant était à sa recherche depuis des années. Il s'appelle Jean-Guy. Il a 80 ans et c'est Laurent d'Ancona qui nous dresse son portrait dans les pages de La Provence ce matin. Jean-Guy est apparu pour la première fois sur la scène judiciaire en 1985. Arrêté avec d'autres pour trafic d'héroïne. En 2002, il obtient une libération conditionnelle, la justice estimant que les risques de récidive étaient extrêmement faibles. Raté. Moins de 3 ans après, il plonge cette fois dans un tentaculaire trafic de cocaïne à son domicile de Nîmes où il vit avec son épouse. On découvre 300 diamants. Il affirme qu'il les a achetés en Afrique 30 ans plus tôt. Et les 4000 euros versés mensuellement sur son compte, il assure que ce sont des parts dans un casino au Bénin. Prend-il vraiment les enquêteurs pour des idiots ? Je vous mens en partie, dit-il alors, mais je ne peux pas faire autrement. L'honnêteté des truands, puis la déprime en prison. Le sexagénaire se met à tenir des propos incohérents. Peu avant son procès en 2006, il est interné à l'hôpital psychiatrique où subitement Jean-Guy retrouve ses esprits. Et il se fait la belle en escaladant en pyjama le mur de l'établissement. En son absence, il est condamné à 15 ans de prison. La rumeur veut qu'il soit retourné en Afrique et en France. On l'oublie.
On l'oublie, Frédéric, jusqu'à la semaine dernière.
Jeudi dernier, à Nîmes. Il venait de passer près de 4 mois à l'hôpital. 4 mois sous son vrai nom. Et chaque jour, cet ancien parrain du trafic de drogue attendait que les policiers viennent le chercher. Et puis, à sa sortie de l'hôpital, il est allé se rendre. Imaginez la scène à l'accueil du commissariat. « Bonjour, je m'appelle Jean-Guy, je suis en fuite depuis 2006. » Les yeux s'écarquillent, le monsieur en fauteuil roulant est une légende du banditisme et fut même l'un des fugitifs les plus recherchés du pays. S'il a décidé de se rendre, c'est parce qu'il est malade, parce qu'il est fatigué. L'un de ses avocats estime qu'il est juste revenu en France pour mourir. Jean-Guy a été écroué la semaine dernière au Baumette, fin d'une cavale de 12 ans. Tout le monde l'avait donc oublié.
Et Thierry Henry, bah lui aussi, hein. Tout le monde ou presque l'avait oublié.
Mais aujourd'hui, c'est bien sur lui que se focalise la presse. Henry, qui reste le meilleur buteur des Bleus. Henry, l'un des plus grands footballeurs de l'équipe de France. Henry, qui se retrouve aujourd'hui à entraîner les Belges, qu'affronteront les Français demain soir. En demi-finale du Mondial, il est adjoint au sélectionneur de la Belgique. Thierry Henry, un bleu chez les Diables Rouges, commente Monaco Matin. Tandis que l'équipe le présente faisant face à Didier Deschamps, 20 ans après avoir conquis ensemble la Coupe du Monde. Les deux hommes seront donc adversaires. Nous sommes tant aimés, Titas à une, le quotidien sportif. Nous nous sommes tant aimés, film d'Ettore Scola. Et le quotidien précise que beaucoup estiment que c'est une citation assez bizarre. Cela dit, ce qui est surtout bizarre, c'est que la France n'ait pas su retenir Titi. Pourquoi n'est-il pas là, assis du bon côté avec l'équipe tricolore ? La réponse est simple, explique Vincent Garcia. Personne ne le lui a demandé. Et il n'a pas fait acte de candidature. Je n'ai appelé personne, confirme l'intéressé. Mais quand tu essayes de devenir coach, tu attends une offre. Et j'ai trouvé que celle de la Belgique était alléchante et bien proposée. N'empêche, pour lui, il y a de quoi être déboussolé. Témoignage d'Alain Bogossian, l'un de ses anciens collègues. À mon avis, lors des hymnes, il va se poser des questions et se rappeler ce qu'il a fait avec l'équipe de France. En l'occurrence, Thierry Henry a fait beaucoup de bien au bleu. Qu'il ne change rien, surtout, conclut mon confrère de l'équipe. Lui, en revanche, certains pensent qu'il serait temps qu'il change. On le retrouve à la une de Libération ce matin.
Lui, c'est Emmanuel Macron qui a convoqué ce lundi le congrès à Versailles.
Macron, l'état de disgrâce, titre le journal de gauche et le Figaro, journal de droite, confirme à sa une. En difficulté, chef de l'État veut trouver un second souffle. On trouve quasiment le même titre dans les Échos ce matin. Un chef de l'État de plus en plus critiqué pour sa pratique monarchique du pouvoir et qui ne cesse de plonger dans les enquêtes d'opinion. De surcroît, son gouvernement a multiplié les couacs ces dernières semaines. Pas moins de 6 couacs en 6 semaines, peut-on lire dans Libé. Le 22 mai, l'humiliation de Jean-Louis Borloo quand Emmanuel Macron enterre son plan pour les banlieues. Le 11 juin, le silence assourdissant à propos de l'Aquarius. Pas un mot du gouvernement alors que le navire humanitaire flotte au large d'une Italie qui lui ferme ses ports. Le lendemain, l'indécent pognon de dingue de l'Élysée, vidéo polémique. Le chef de l'État qui peste contre l'inefficacité des minima sociaux. Le 26 juin, un revirement sur les fonds de pension. Le 2 juillet, nouveau revirement, cette fois sur le rapport du comité Action publique 2022. Il était attendu, mais ses conclusions sont jugées embarrassantes. On en reparlera plus tard. Et c'est la même chose pour le plan pauvreté. Il attendra finalement la rentrée de septembre. Le 4 juillet, il y a quelques jours, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, expliquait en toute franchise que le plan était prêt, mais que l'exécutif pourrait en retarder l'annonce si nos footballeurs se qualifiaient pour la demi-finale du Mondial. Autrement dit, les pauvres seront fixés seulement si l'Uruguay sort la France. Or, la France n'a pas été sortie par l'Uruguay.
Et dès lors, que faut-il espérer de l'intervention d'Emmanuel Macron cet après-midi ?
Les éditorialistes sont, disons, assez perplexes ce matin, pessimistes même. Le président pourrait bien se perdre dans des digressions intellectuelles à milieu des préoccupations des Français, avance l'opinion. Sur le fond, il n'y a pas grand-chose à attendre de cet exercice de communication présidentielle. Renchérit Pascal Coqui dans les dernières nouvelles d'Alsace. Emmanuel Macron, écrit-il, vient rendre compte de son action, ce qui ne signifie pas débattre ni même expliquer, et encore moins se justifier, ce qui n'a pas l'air d'être le genre de la maison. Dans Sud-Ouest, Yves Arté craint même que cela ne se résume, je cite, à un exercice d'autorité aveugle et de vaniteuse autosatisfaction sur le sujet. Lire également l'interview d'Alain Minc dans Libération, soutien du macronisme. L'économiste justifie la main de fer du président nécessaire, dit-il, aux réformes, mais dans le même temps, il s'inquiète du manque d'équité sociale qui, pense-t-il, peut conduire à un spasme aux formes imprévisibles. Un spasme, c'est le mot qu'il emploie, mais le journal a choisi de titrer son article avec une autre citation. L'inégalité est trop forte, nous risquons une insurrection. Et c'est donc Alain Minc qui parle, ce n'est pas un édito de l'Humanité.
Oui, on se pince l'UMA, cela dit, qui s'en prend également à la politique du chef de l'État.
Sur les crèches, Macron veut faire les poches des familles. C'est le titre à la une des révélations du journal. Le gouvernement s'apprêterait a augmenté de 2% le reste à charge pour les parents d'une journée à la crèche et de réduire dans le même temps la participation de l'État dans le financement des 30 000 nouvelles places promises. Ce sont les collectivités locales qui devront donc payer près de 3 millions d'euros supplémentaires pour la ville de Montreuil, 12 millions d'euros supplémentaires pour la ville de Marseille. Nous voilà en Provence, Frédéric. Autre révélation. Cette fois, il s'agit de consommation et c'est à lire ce matin dans Le Parisien. L'incroyable fraude au rosé. Selon la répression des fraudes, des milliers d'hectolitres de vin espagnol ont été vendus chez nous en France sous étiquette française. Pour le quotidien, c'est l'arnaque du siècle. 10 millions de bouteilles espagnoles maquillées en vin français auraient été écoulées ces derniers mois, à la fois en grande surface mais aussi dans les restaurants. Dessins de rançon, deux hommes qui observent une bouteille. Regarde, tu as toute la lumière de la Costa del Sol dans ce rosé de Provence. C'est drôle et un peu triste à la fois.
De son côté, Lacroix revient sur cette décision du Conseil constitutionnel.
Vendredi, il a jugé que la fraternité était bien un principe de la Constitution, une première dans l'histoire de la République. Et le journal estime que c'est une décision qui fait chaud au cœur. Mais d'autres infos nous font chaud au cœur également. Des infos sur la vie culturelle des régions dans l'Ardennais. On lit que les musées de Charleville-Mézières font un tabac dans l'éclair. On lit que le festival de jazz à Oloron a battu son record de fréquentation. Et puis dans Le Progrès, le début d'une série d'été sur la route des grandes dames. Pour le premier épisode, c'est le portrait de Jacqueline de Lubac, l'art et l'élégance. Alors Frédéric, je ne sais pas si vous connaissiez le nom de Jacqueline de Lubac.
Non, mais grâce au journal, on va découvrir.
Eh bien, c'était la troisième épouse de Sacha Guitry, mais également une actrice lumineuse, une collectionneuse d'art moderne aussi libre qu'avisée, nous dit-on. À sa mort, elle a légué 3 sculptures de Rodin et 35 tableaux de maître au musée des Beaux-Arts de Lyon, sa ville natale. Sacha Guitry disait « J'ai 50 ans, Jacqueline en a 25, il est donc normal qu'en ce jour, elle devienne ma moitié ». Il a dit ceci le jour de leur mariage. Jacqueline de Lubac est morte il y a 21 ans. On remercie le journal de nous parler d'elle. On l'avait oublié.
Et on vous remercie Frédéric Pommier pour cette revue de presse de l'été.